Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin. J-1 avant la réouverture des petits commerces et des rayons de supermarchés qui avaient été fermés fin octobre. Le gouvernement hier a précisé le protocole. Donc ce sera une jauge de 8 mètres carrés par client. La surface de calcul est celle du local de vente, hors étal, et les salariés ne sont pas inclus dans le comptage. Au-dessus de 400 mètres carrés, le magasin devra prévoir un système de comptage. Comme après le premier déconfinement, il y aura aussi un sens unique de circulation et les magasins pourront rester ouverts jusqu'à 21h. Par ailleurs, il y aura des dérogations facilitées pour pouvoir ouvrir le dimanche. Bonne surprise hier par ailleurs pour deux professions, les auto-écoles et les agences immobilières. Elles aussi pourront rouvrir demain avec là aussi un protocole sanitaire très très durci. Écoutez Mathilde Bévilis, c'est la directrice de l'agence Century 21 de Bougival dans les Yvelines.
Nous avons beaucoup de biens en stock, donc on a fait pas mal de visites virtuelles. Mais aujourd'hui, c'est compliqué pour un acheteur, je pense, de se positionner. Et pour conforter le projet, une visite en physique, on le sait tous, hein, c'est très important. Les acquéreurs sont là, en tout cas, contrairement au premier confinement où vraiment l'activité était quasiment à l'arrêt. Donc ça va décanter, je pense, pas mal de projets. On est très optimiste, même avec un protocole assez strict, hein. Une aération, bien sûr, des biens un quart d'heure avant et un quart d'heure après les visites. Et puis surtout, donc, nous avons le droit qu'à une seule personne en visite et une visite de biens par demi-journée. C'est pas grand-chose, donc ça va mériter une belle organisation, mais c'est déjà bien qu'on puisse continuer notre métier, c'est surtout ça.
Voilà, c'est déjà bien. Content donc ces heureux élus qui vont pouvoir ouvrir malgré quelques contraintes. Ensuite, il y a ceux qui restent fermés. Les restaurateurs, les bars, les discothèques, les salles de sport, couverts certes par le fonds de solidarité. Et puis il y a tous les autres, hein, ceux qui sont ouverts mais violemment frappés par la crise. On parle du tourisme, de l'hôtellerie ou encore de la culture. Et derrière eux, n'oublions pas tous leurs prestataires. Alors ceux-là, désormais, auront droit au fonds de solidarité, 10 000 euros par mois ou bien une indemnisation de 15% de leur chiffre d'affaires de l'an dernier si leur perte est de 50%, 20% si les pertes sont de 70%. Bercy chiffre ainsi à 3,5 milliards d'euros le coût pour décembre de ces nouvelles aides. Dans le Figaro ce matin, plus de 15 noms de la gastronomie française et des centaines de restaurateurs regroupés dans deux collectifs racontent d'ailleurs l'agréable surprise qu'a été pour eux l'annonce mardi par le président de cette aide à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires. Avant de comprendre que cette aide en fait ne porterait que sur le mois de décembre et non novembre qui a été le mois du reconfinement. Pendant ce temps-là, les États-Unis compensent jusqu'à 100% des pertes de chiffre d'affaires des restaurateurs. C'est 75% en Allemagne. Les restaurateurs français qui dénoncent aussi l'absence d'avancée sur un sujet majeur. Les jours de congé des salariés en chômage partiel, ces jours restent dus par l'employeur. Les stations de ski, elles, pourront ouvrir à Noël, mais les remontées mécaniques resteront fermées. Fermées à Noël également les parcs d'attractions comme le Futuroscope ou le parc Astérix qui n'ouvre qu'une partie de l'année. Reportage justement au parc Astérix de Céline Cajoulis.
Normalement à cette période-là c'est une effervescence.
François Ledeau en charge de la maintenance des attractions.
Les préparatifs de Noël, on avait un premier week-end où des comités d'entreprise louaient le parc pour leurs familles et on était aussi en pré-ouverture publique. Plein de sapins, plein de déco, plein de personnel actif avec des nacelles et aujourd'hui c'est quand même silencieux et les sapins qui sont là sans déco.
Pendant la période de Noël, le parc Astérix accueille 400 000 visiteurs et fait travailler 900 personnes, dont 600 saisonniers. Alors cette interdiction d'ouvrir va faire fondre le chiffre d'affaires de 10%. Nicolas Kremer, directeur général du parc.
C'est très impactant pour le parc parce qu'on a un niveau de coût fixe en termes d'investissement, d'équipe de maintenance qui sont extrêmement élevés. Et en fait, c'est sur les 200 jours où on peut ouvrir que l'on dégage du chiffre d'affaires qui nous permettent de payer en fait toutes ces dépenses qui, elles, durent toute l'année.
Et dans le parc déserté, Astérix, penché sur son rocher, regarde tristement les salariés démonter les manèges pour les mettre à l'abri pour l'hiver, en espérant pouvoir accueillir normalement le public à la réouverture en avril prochain.
Céline Cajoulis, un mot encore des commerces. Ça bouge aussi sur une question cruciale, la question des surplus de stock. Que vont faire les commerçants de tout ce qu'ils ont acheté s'ils ne parviennent pas à vendre suffisamment en décembre? Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Eh bien, il y a une annonce à ce sujet de Bercy qui annonçait que le gouvernement pourrait racheter tous les surplus.
Voilà, lors des prochaines semaines, les commerçants auront les yeux rivés sur leur trésorerie. Il leur est impératif de faire entrer l'argent dans les caisses pour payer les factures et rattraper le retard pris lors des 3 mois de fermeture. Pour cela, eh bien, il faut écouler les stocks. Le retour des consommateurs dans les magasins et les soldes qui débuteront le 6 janvier sont une très bonne chose. Il reste à savoir si cela sera suffisant. L'État pourra en effet racheter les invendus pour les donner à des associations. Une option séduisante, mais les fédérations redoutent que les commerçants rognent sur leurs marges pour écouler leur stock au plus vite. Cela risque de se faire au détriment de leur situation financière. Cependant, certains magasins préfèrent prendre ce risque afin d'échapper à la menace d'une cessation de paiement.
Éric Mauban.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
L'actualité ce matin, c'est aussi cet accord national trouvé sur le télétravail au terme de tractations intenses de 3 semaines. 4 syndicats de salariés sur 5 l'ont signé. Seule la CGT ne l'a pas paraphé. Le texte définitif alors n'a pas de caractère contraignant pour l'employeur, mais tout de même, il fixe enfin un cadre clair. Émilie Vallès.
Les organisations patronales ont dû faire des concessions sur la définition des postes éligibles au télétravail, par exemple. Cela ne sera pas finalement que du ressort de l'employeur, Éric Chevet de la CPME.
Nous expliquons dans cet accord comment faire en sorte d'associer les salariés, notamment par le dialogue social, à la définition de ces postes. Et nous avons confirmé, ce qui n'était peut-être pas très clair sur l'accord de 2005, la notion de double volontariat. Il faut un volontariat de l'entreprise et un volontariat du salarié pour accepter de partir en télétravail.
Et si l'employeur ne souhaite pas que les salariés télétravaillent, il devra motiver son refus, un point essentiel pour la CFDT. Même si Catherine Pinchot, négociatrice pour le syndicat, reconnaît que cet accord, dans son ensemble, n'est pas contraignant.
On n'est pas allé chercher le Graal. Hein. On n'est pas dans un accord normatif avec des obligations et des contraintes réelles. On est beaucoup plus dans la recommandation, dans l'incitation. Mais pour autant, il présente un cadre intéressant. Le boulot, j'ai envie de dire, va commencer pour qu'il puisse être mis en œuvre au plus près des réalités de terrain.
Et sur la question de la prise en charge de l'électricité ou de l'abonnement Internet, le texte rappelle simplement que les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur, mais rien n'est précisé.
En bref, dans l'aérien, la compagnie Corsair a trouvé un repreneur, en l'occurrence un consortium d'investisseurs. Corsair va recevoir 300 millions d'euros, dont près de la moitié venant de l'État. Une descente d'huissier aussi hier matin, simultanément au siège d'Engie, de Veolia et de Meridiam. Des huissiers diligentés par Suez qui cherchent des preuves que les trois groupes se seraient entendus avant l'annonce par Engie de la mise en vente de ses parts dans Suez. Et puis des doutes sur le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca. Le laboratoire a lui-même annoncé hier qu'il lançait une nouvelle étude. Après des critiques concernant ses premiers résultats annoncés en début de semaine, le gouvernement britannique a lui aussi demandé cette nuit à l'autorité britannique du médicament d'examiner elle aussi le candidat vaccin d'AstraZeneca. Les marchés pour finir, le CAC en très léger recul hier, moins 0,08%, 5 566 points dans un tout petit volume d'échange, 2,5 milliards d'euros seulement. Marché peu animé en l'absence des investisseurs américains, ils sont en congé de Thanksgiving. Il y aura d'ailleurs une demi-séance.